نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Dans la poursuite de notre explication des versets, quelques versets du Coran Sharif, nous abordons aujourd'hui, Inch'Allah, le 17e Sipara, 17e Juz, qui comprend deux sourates, la Sourate Al-Anbiya, c'est-à-dire celle des prophètes, qui est une sourate Makki, et la Sourate Al-Hajj. Et à propos de cette sourate Anbiya, Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il dit en ce sens que la sourate Al-Kahf, sourate Maryam, sourate Taha et la sourate Anbiya, ces quatre sourates en termes de révélation, ce sont les premières sourates qui ont été révélées. En termes de révélation, ce sont les sourates qui ont été révélées au début. Et cela fait partie de mes premières richesses et ce que j'ai obtenu. Et je fais très attention à les mémoriser. Donc ces quatre sourates, Sourate Maryam, Sourate Taha, Sourate Al-Kahf et Sourate Al-Anbiya. Et comme vous le savez, probablement, Inch'Allah, lorsqu'on parle de Sourate Makki, déjà la définition en elle-même, cela veut dire que ces versets, de manière générale, ils ont été révélés avant la Hijra, avant l'émigration de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les versets qui ont été révélés après la Hijra, on appelle donc cette sourate Madani. Voilà pour ce qui est de la terminologie. Même si Allama Suyuti rahimahullah ta'ala, dans son livre qui s'appelle Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, il a évoqué quelques opinions, mais inshallah on va s'appuyer là-dessus. Si je me trompe pas, Mufti Taqi Osmani damat barakatuhum également dans son Ulum al-Qur'an, un ouvrage en ourdou sur les sciences du Coran Sharif également, a adopté et choisi cette voie-là. Et pour ce qui est de la sourate, cette deuxième sourate, sourate Al-Hajj, il est dit en ce sens que c'est une sourate qui est particulière dans le fait où, en termes de révélation sur les sourates, vous avez certains versets qui ont été révélés alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage. D'autres versets ont été révélés alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Certains ont été révélés de nuit, certains ont été révélés de jour, certains ont été révélés en été, d'autres ont été révélés en hiver. Et dans cette sourate-là, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que dans cette sourate, on retrouve tout cela. C'est-à-dire, on retrouve différents types de versets. Il y a même certains versets qui sont nasir et d'autres qui sont mansour, c'est-à-dire certains qui ont abrogé d'autres. Donc, certains qui ont été abrogés et d'autres qui ont abrogé. Donc, c'est une sourate qui regroupe tous ces types de versets. Voilà donc pour les précisions par rapport à cela. Donc dans notre première partie, celle du fiqh, d'abord on va parler bien évidemment du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah tabaraka wa ta'ala, généralement dans les sourates Makki, c'est-à-dire celles qui ont été révélées avant l'émigration à Madina Munawwara, aborde ce sujet en abondance. Il y a un ayat en particulier qu'on mentionnera, il y en a plusieurs sur les signes de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais un plus particulièrement qui est mentionné dans les livres de Aqaïd, c'est-à-dire de croyances, et qui de manière, on va dire, logique, nous prouve l'existence d'un seul Dieu. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ » S'il y avait deux dieux, deux divinités en dehors d'Allah, alors l'organisation de la terre et des cieux, elle aurait été corrompue. فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Et Allah ta'ala est pur, le maître du trône du Arsh, à propos de ce que les gens définissent pour Allah tabarak wa ta'ala. Alors cette preuve, c'est ce qu'on appelle dans certains ouvrages le dalil et tamanu'a, c'est-à-dire c'est une preuve qui empêche la conception de l'existence de deux divinités. Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il a parlé de tawhid qui dalil et adi à la page 178. Et cela veut dire quoi? Que à travers ce verset, Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est impossible d'avoir deux divinités. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle institution, parfois même dans la maison, vous allez avoir, si vous allez avoir deux personnes, vous allez donc avoir deux opinions. Et comment est-ce qu'on va faire si, na'uzubillah, un dieu, il va dire un jour, moi je veux donner la mort à cette personne. Et l'autre dira que non, moi je ne veux pas donner la mort. Donc qu'est-ce qui se produira pour cette personne? Un tel décidera que la pluie devra tomber, l'autre décidera que la pluie ne tombera pas. Donc il y aura forcément contradiction entre les deux opinions s'il y avait plusieurs divinités. Et alors on pourrait dire, oui mais si par exemple ils vont se concerter, on fait mashwara, et ils vont se mettre d'accord. C'est-à-dire, un va se mettre d'accord avec l'autre. Al-Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il dit que s'ils ont besoin de se concerter et de se mettre d'accord, c'est la preuve même qu'ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Donc, Malik wa Mukhtar Nahim, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent faire ce qu'ils veulent, donc forcément il y aura contradiction. Donc ça c'est une preuve assez simple et logique et qui est importante parce que parfois, au-delà des grands discours, quand on donne certains exemples, alors Allah tabaraka wa ta'ala, il met la guidée donc, pour certaines personnes. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le dalil et tamanu. Ensuite par rapport à cette première partie de fiqh également, dans nos croyances, vous savez que le jour du Qiyamah, on avait abordé précédemment ce sujet, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit qu'il y aura le compte, nos actions vont être pesées. Et ça, c'est un verset du Coran Sharif qui est en général récité lors de ce qu'on appelle le Khatm Bukhari, c'est-à-dire dans le Sahih al-Bukhari, à la fin, Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a parlé de la pesée des actions, il a mentionné ce verset-là, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. C'est-à-dire, Allah tabaraka wa ta'ala dit, on va placer les balances, le mot lui-même utilisé à la forme plurielle, les balances de la justice, le jour du Qiyamah, et aucune âme ne sera oppressée. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Et Allah nous fait comprendre que même la plus petite forme d'action qu'on ait pu accomplir, Allah Ta'ala dit le jour du Qiyamah, vous allez voir cela. Alors par rapport à cette balance, c'est une réalité. Et on va mentionner un hadith sharif, inshallah, rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, qui dit en ce sens, Aisha radiallahu ta'ala, elle dit qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt un homme est venu vers le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et a dit, Ya Rasulallah, j'ai deux esclaves. Et ces esclaves, ils me mentent, et lorsqu'ils travaillent pour moi, alors ils me trahissent. Et ils me désobéissent également. Et par rapport à leur comportement, je prononce des mauvaises paroles contre eux. Et parfois, je les frappe également. Comment est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala, il va juger de mes affaires avec ces personnes qui travaillent pour moi? Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en ce sens que... C'est-à-dire, leur désobéissance, leur trahison, leur mensonge, cela va être pesé. Et toi également, tes mauvaises paroles et tes coups que tu as portés également, cela va être pesé. Si ce que tu as fait et ce qu'ils ont fait sera égal, alors il n'y a pas de problème. Cela sera équivalent. Et si par exemple ce que tu leur as fait en représailles, on va dire, est inférieur à ce qu'ils t'ont fait, alors cela sera considéré comme une bonne action que tu as fait. En revanche, mais lorsque tu les as frappés, tu les as parlé avec donc. On va dire ces expressions, si cela était supérieur à ce qu'ils ont fait, alors le jour du Qiyamah, tu auras à rendre compte de cela et Allah tabarak wa ta'ala, il prendra compte de cela. Et il est dit que cette personne, il s'en est allé dans un coin, il a commencé à pleurer et il s'est dit en lui-même, il s'est rappelé de ce verset وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, que Allah tabarak wa ta'ala, il placera le jour de la résurrection les balances de la justice. Et il a dit que pour moi, la seule possibilité, c'est de libérer ces esclaves-là. Et c'est pour ça que afin que je n'ai plus à porter le poids de ce compte-là et de cette pesée des actions. On avait également précédemment mentionné, alhamdulillah, lors de l'explication de la Sourate Al-Kahf, que les actions, il y a deux possibilités, deux versions, on va dire, des ulama. Une qui dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il présentera à la pesée les écritures que les anges ont faites de nos actions. Et une deuxième opinion que beaucoup de savants, jamhur ulama, ont choisi, c'est-à-dire la majorité des savants, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala donnera une forme particulière à nos actions le jour du Qiyam. Et ces actions qui auront donc cette forme particulière, elles seront pesées en elles-mêmes. Donc voilà pour ce qui est du jour des comptes. On peut également mentionner un hadith sharif dans lequel Imam Hakim Bayhaqi rahimahullahu ta'ala, toujours de Hadith Aisha radiallahu ta'ala anha, qui dit qu'une fois elle a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu te souviendras de nous le jour du Qiyamah, de ta famille et de tes enfants? Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu qu'il y a trois endroits, trois moments particuliers où personne ne se souviendra de personne. Le premier, c'est-à-dire lorsqu'on sera devant la balance et il y aura donc la pesée de nos actions. Deuxièmement, tant qu'on ne connaîtra pas, on va dire, de quel côté la balance a penché, alors là on ne pensera à personne d'autre. Deuxièmement, c'est lorsque les livres de comptes vont s'envoler. Et là, tant qu'on ne saura pas, on ne saura pas si on aura notre livre de compte de la main droite ou la main gauche, là également personne ne pensera à quelqu'un d'autre. Et troisièmement, lorsqu'on devra traverser le pont Sirat qu'on avait évoqué hier, si je me trompe, alhamdoulillah, alors là également ce sera un moment délicat et c'est pour ça que personne ne pensera donc à quelqu'un d'autre. Ensuite, toujours dans cette partie fiqh, il y a un verset dans cette sourate al-Hajj, dans ce 18e 12, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il parle des gens du paradis. Et il dit en ce sens, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. C'est-à-dire, comme récompense, Allah tabarak wa ta'ala, il va donner aux gens du paradis des bracelets مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ qui seront faits d'or et qui seront faits de pelle. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ et leurs habits seront faits de soie. Alors Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il a profité de l'occasion, on va dire, pour mentionner cette règle concernant le port des bracelets et des bijoux. Et vous savez que pour l'homme, l'homme n'a pas le droit de porter des bijoux, si ce n'est une bague à la hauteur de 4 grammes 374, si je me trompe. Donc une bague en argent, l'or ce n'est pas permis pour les hommes. Donc en dehors de ça, l'homme n'a pas le droit de porter des bijoux. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il explique pourquoi est-ce que dans le paradis, c'est une sagesse, ce n'est pas la raison forcément, pas la illa mais la hikma, pourquoi est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala, il donnera cela aux gens du paradis? Parce qu'il dit que sur cette terre même, à travers un récit de Suraqa bin Malik radiyallahu anhu, qui est devenu un sahaba, il dit qu'on apprend de cela que les rois de ce monde, de la même manière qu'ils avaient l'habitude de porter des couronnes, ils portaient également des bracelets. Et donc Allah tabarak wa ta'ala, pour honorer ces personnes-là le jour du jugement dans le paradis, pour leur donner, on va dire, ce maqam, ce statut de royauté, c'est pour ça qu'Allah tabarak wa ta'ala, il leur donnera cette capacité de porter des bracelets. Deuxièmement, pour ce qui est des vêtements de la soie, vous savez également que pour les hommes, cela n'est pas permis. Et dans le paradis, inshallah, Allah tabarak wa ta'ala, il donnera cette possibilité. Pour ce qui est du fait de porter des bijoux, voilà, dans Fatawa Hindiya, au volume 5, à la page 335, il est mentionné que cela n'est pas permis, si ce n'est cette bague en argent d'un poids de 4 grammes 373-374. Donc on a vu ça. Ensuite, on passe à un autre domaine dans cette suratul Hajj qui correspond plus particulièrement à ce ibadat, à ce type d'adoration qui est le pèlerinage, c'est-à-dire le Hajj. Et là, Allah tabarak wa ta'ala, il mentionne plusieurs versets. Et à travers ces versets-là, inshallah, on va essayer d'aborder brièvement, comme Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il a fait quelques règlements par rapport à cela. Et premièrement, c'est ce qui concerne les animaux qui doivent être égorgés lors du Hajj. Alors, vous savez, vous avez un certain type d'animal qui doit être égorgé si quelqu'un, il a commis un djurm, il a commis un péché particulier. Par exemple, il était dans les houdous, dans les limites du haram, du haram de Makkah Mukarrama, et là-bas, il a chassé un animal ou il a tué un animal. Donc, s'il a fait ça, alors qu'il n'avait pas le droit de faire, là, il faudra qu'il égorge un animal. Deuxième type d'animaux qu'on peut trouver qui doivent être égorgés lors du Hajj, c'est lorsqu'on est en état de ihram. Et vous savez que lorsqu'on est en état de ihram, il y a certaines choses qu'on peut faire et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Donc si quelqu'un il a commis un manquement, il a fait une action qui n'est pas autorisée lorsqu'il est en état de ihram, alors là également, pour certaines de ces actions, il y a différents niveaux, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali ne les a pas développés, nous aussi nous ne les développerons pas. Et selon, on va dire, la gravité de l'action, certains disent qu'il faut donner un chameau, il faut égorger un chameau, d'autres disent qu'il faut donner un cabri, vache, etc., etc. Et c'est dégressif. Et de la même manière, il y a certaines petites erreurs, on va dire, que si quelqu'un il commet, il n'y a pas besoin de donner un animal, d'égorger un animal, mais de donner une simple sadaqa, cela est permis. Et ces deux catégories-là qu'on a vues, si quelqu'un en état de ihram, ou alors lorsqu'il est à Makkah Mukarrama, il a chassé ou tué un animal, etc., ces deux types d'animaux-là, nous-mêmes, la personne, on ne peut pas le consommer. On ne peut pas le consommer, on ne peut pas consommer de cette viande, et on ne peut pas donner également cette viande à quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui est considéré comme ayant donc beaucoup de moyens, une personne aisée. En revanche, pour ce qui est des autres types d'animaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dame tamattur et dame qiran. Alors il y a différents types de hajj, brièvement. Un premier type de hajj, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle hajj ifrad. Quelqu'un, il va avec l'intention d'accomplir uniquement le hajj. Ça, c'est le premier. Deuxième type, c'est hajj tamattur. Il va avec cette intention d'accomplir le hajj et la umrah, mais avec deux ihram différents. Deux ihram différents. C'est-à-dire, il va faire le umrah d'abord. Ensuite, lorsqu'il a fini l'umrah, il enlève son ihram. Et lorsque les jours de hajj vont commencer, là, il va mettre son deuxième ihram. Et un troisième type de hajj, c'est quoi? Hajj qiran. Il va toujours avec cette intention d'accomplir la umrah et le hajj. Mais lorsqu'il a terminé son umrah, il ne va pas enlever son ihram. Il va toujours garder ça. Selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, c'est la voie, on va dire, qui contient le plus de récompenses. Bref, après avoir expliqué tout ça, il y a ce qu'on appelle le dame tamattur, dame qiran. Pour ce qui est de cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné l'autorisation à nous-mêmes de consommer de cette viande-là, ou alors de donner à nos amis, etc., etc. Et il est également conseillé, mustahab, qu'une partie, un tiers de cette viande-là soit distribuée aux pauvres. Maintenant, si quelqu'un il veut donner tout, alhamdoulilah, il le peut. Et ça, c'est basé sur ce verset-là. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Donc voilà, on a vu pour ce qui est du qurbani. Et après le qurbani, Allah tabarak wa ta'ala nous dit: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Puisqu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils nettoient leur corps. C'est-à-dire, après avoir fait le qurbani, maintenant il faut sortir de l'ihram et maintenant vous avez l'autorisation de tailler les ongles, de prendre des bains, de mettre du parfum. Qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison, c'est-à-dire de Makkah Mukarrama, de Baytullah. Et concernant cela, il y a une règle qui est celle de ce qu'on appelle du tartib. C'est-à-dire, ces actions, elles doivent être accomplies dans un ordre bien précis. D'abord, ça c'est pour l'imam Abu Hanifa, imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est wajib d'accomplir ces actions dans l'ordre. Si vous n'allez pas accomplir cela dans l'ordre, alors là également il faudra donner un dam, c'est-à-dire donc de sacrifier un animal parce qu'on n'a pas respecté le tartib. Pour ce qui est de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, cela est sunnah. Ce qui veut dire que si quelqu'un n'a pas respecté cet ordre, par exemple d'abord il est sorti de son ihram et ensuite il a égorgé l'animal, alors il aura moins de récompenses mais il n'aura pas de dam à donner. Donc ce tartib-là, cet ordre-là, il doit être respecté. D'abord, le qurbani doit être accompli. Ensuite, on peut sortir de l'ihram, prendre son bain, etc., etc. Et ensuite, d'aller accomplir le tawaf, qu'on appelle le tawaf et ziyara. C'est ce qu'Allah tabarak wa ta'ala dit ici. وَلْيَتْطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Et ce tawaf, il peut être accompli. Donc le 10e Zulhijja, c'est mieux. Après avoir fait le rami, après avoir fait le qurbani. Et ce tawaf et ziyara-là, c'est le deuxième rukn du hajj, c'est-à-dire le deuxième faraz, si vous voulez. Dans le hajj en lui-même, il y a deux choses qui sont faraz. Le premier, c'est le wukuf et Arafat, c'est-à-dire d'aller au moins pendant un moment dans la plaine de Arafat et de rester là-bas. Et le deuxième, c'est de faire ce tawaf et ziyarat. Ensuite, vous avez d'autres choses qui sont wajib, etc. Mais si une de ces deux choses n'a pas été accomplie, alors cela ne sera pas malheureusement donc complet. Ensuite, farz, peut-être pas farz, hein? Pas rukn. Rukn, je pense qu'il y en a deux. Le port du ihram doit être peut-être wajib, mais farz. Pour ce qui est donc des péchés, nous allons mentionner le récit de Hazrat Zulkifl. Alors Zulkifl, Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Alayh, il nous dit que là, certains savants, ils sont d'avis que c'était un prophète, c'était un nabi. Et d'autres, ils nous disent que non, ce n'était pas un nabi. Et Allah, dans le verset du Coran Sharif, qu'est-ce qu'il nous dit? Il mentionne avec la suite des Anbiya alayhi salatu wa sallam. Il dit wa Ismaïla wa Idrissa wa Dhalkifl. Alors, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il a mentionné les récits par rapport à ce personnage-là qu'on connaît moins, on va dire, que les autres Anbiya alayhi salatu wa sallam, et des récits qui sont assez intéressants. Donc on va inchallah les mentionner avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala. Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il a repris à la page 218 dans le volume 6, et il nous dit que en réalité, il y avait un autre prophète qui est également moins connu, qui s'appelait Hazrat Al-Yasa'. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le 23e sipara وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ. Et lui-même, Hazrat Al-Yasa' alayhi salatu wassalam, qui était donc un nabi, on raconte en ce sens qu'une fois, d'après le tafsir Ibn Jarir, qui rapporte de son sanad, sa chaîne de transmission avec Imam Mujahid, rahimahullahu ta'ala, qu'il était devenu extrêmement âgé et il était devenu extrêmement affaibli. Et là, il cherchait quelqu'un, on va dire, pour l'épauler et pour le supporter, pour l'aider. Et il a fait cette annonce que la personne qui va donc devenir, si vous voulez, mon bras droit, il pourra le faire à trois conditions. Premièrement, il faut que tout le temps il garde le jeûne. Hamesha roza rakhta. Deuxièmement, il faut que Hamesha ratko ibadat me bedar rehtahu. Toute la nuit, il faut qu'il soit éveillé et qu'il fasse l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Et troisièmement, kabir usana karta. Jamais il faut qu'il ne se mette en colère. Et donc là, il est dit que lorsque Hazrat Al-Yasa' alayhi salatu wassalam, il a fait cette annonce en public, personne ne s'est levé, si ce n'est une personne qui en apparence ne payait pas de mine, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas trop attention à cette personne-là, qui était très simple et très modeste dans son apparence. Et donc il s'est levé, il a dit que moi je suis prêt. Hazrat Al-Yasa' alayhi salam, il a dit non, mais peut-être que c'est sur le coup, il a voulu faire ça, mais il n'a pas cette capacité-là. Le deuxième jour, il a refait cette même annonce, et toujours cette personne, elle s'est mise debout. Et finalement, Hazrat Al-Yasa' alayhi salatu wassalam, il a choisi cette personne-là. Maintenant, lorsqu'elle a été, on va dire, mise à ce poste, Shaitan, bien évidemment, il cherche toujours, dans n'importe quelle des actions, a toujours à mettre son grain de sel, ou plutôt, je ne sais pas quel grain. Et puis, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ils se sont rencontrés entre eux. Et là, ils se sont dit qu'absolument, il faut absolument qu'on fasse tomber cette personne-là. Et entre eux, beaucoup, ils ont abandonné. C'est-à-dire, on ne pourra pas faire tomber cette personne-là, on ne pourra pas le mettre dans l'erreur. Finalement, il dit que Iblis lui-même, il dit, moi, je vais m'occuper de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'apparence d'une personne. Hazrat Yasa, Iqrar ki mutabik din bar roza rakhte, raat bar jaagte, to sirf do pehar ki qailula qalke. Le seul moment où il pouvait se reposer, c'était l'après-midi, lors du qailula. Et puisque la nuit, il faisait les ibadat et toute la journée, il était en train de roza. Alors, Shaitan, il a pris l'apparence d'une personne, on va dire, très simple et très modeste, et il a frappé à la porte donc, de cette personne au moment où il était en train de se reposer, de faire la sieste, de faire le qailula. Et là, il s'est réveillé, il a dit « Qui est-ce ?» Il a dit que voilà, je suis quelqu'un qui est oppressé, j'ai beaucoup de besoins, je suis pauvre, etc. etc. Az-Zulkif lui a dit « C'est bon, lorsque je sortirai, viens auprès de moi et moi, Inch'Allah, je ferai en sorte que tes affaires, Inch'Allah, elles soient réglées. » Et donc ça s'est produit la première fois. Et quand Az-Zulkif, radiallahu anhu, bien alayhi salatu wassalam, parce que Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, après on va dire prophète Tadbir, il dit que c'est possible que au départ Hazrat Zulkif, il était le bras droit de Hazrat Al-Yasa alayhi salam, et ensuite Allah tabarak wa ta'ala l'ait fait devenir prophète. Ça c'est une possibilité. Il dit wallahu alam, Allah ta'ala, il sait mieux. Bref, donc quand il est sorti, il a attendu cette personne là il a attendu, elle n'est pas venue. Le lendemain, le même scénario se reproduit, et au même moment il vient encore une fois cogner à la porte et dit que voilà, etc. Il dit, hier je t'ai attendu, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Il dit, non, en réalité, lorsque mon maître m'a vu dans ton assemblée, alors par peur, et il a vu que j'étais assis, j'avais discuté avec toi, par peur que justement tu l'obliges à me rendre mon droit, il m'a dit que c'est bon, je vais te donner ce que je te dois. Mais dès que tu es parti, immédiatement là, il a dit, non, c'est pas vrai, j'étais en train de mentir, c'est pour ça que j'ai pas pu venir. D'accord, ben, demain, Inch'Allah, encore une fois, tu fais ça, c'est-à-dire que tu vas venir me voir. Ça, c'était le deuxième jour. Et là, encore une fois, le deuxième jour, il n'est pas venu. Et le troisième jour, Hazrat Zulkif, radiallahu ta'ala, il a dit aux gens qui étaient près de lui, il a dit que maintenant, si quelqu'un vient cogner à la porte, alors ne me réveillez pas. Parce que ça faisait deux jours qu'il n'avait pas dormi. Il a été donc troublé dans son sommeil. Et là, il a vu que le troisième jour, donc cette personne est venue également. Les gens ne l'ont pas laissé entrer. Mais puisque c'est Shaitan, Allah lui avait donné ce pouvoir-là, de passer, on va dire, à travers la matière, parfois même les, djinnat également, Wallahu alam, Allah Ta'ala lui donne ce genre de pouvoir et de particularité là. Donc il est rentré, et il est rentré, lorsqu'il est rentré, Hazrat Zulkif, il s'est réveillé. Et là, il a vu cette personne-là, et il a dit, bah, comment ça se fait que tu es entré alors que la porte était fermée? Et Zulkif, radiallahu anhu, il a reconnu, il a dit que tu es shaitan, n'est-ce pas? Il a dit oui. Et ce n'est iqrar qui a qu'il y a, or qu'il n'est là que tu n'es mujimiri har tadbir takadia kabi mirajal minahi aya ab meneye ko shishki ke tu je kisi tarah ghussa diladu taqe tu apne is iqrar me juta ho jaye jo yasa nabi ke sata. Il a dit, j'ai essayé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que tu ne respectes pas ta parole. Mais malgré tout, je n'ai pas réussi, bien sûr, pour ce qui est du jeûne, ça j'avais délaissé, pour ce qui est de la nuit, mais de te mettre en colère, voilà ce que je voulais essayer de faire, et malgré tout, je n'ai pas réussi. Il y a un autre récit qui est rapporté par Hafez ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qui est rapporté de le Musnad Ahmad, c'est un livre de hadith sharif en ce sens, mais qui parle d'un personnage qui s'appelle Al-Kifl, non pas Zul-Kifl, mais Al-Kifl. Et il est dit que cette personne des Bani Israël, lui, il avait l'habitude, malheureusement, de faire toutes sortes de péchés. Il ne s'abstenait d'aucun péché. Il avait l'habitude de faire toutes sortes de péchés. Et une fois, donc, il a rencontré une dame, il a donné un certain nombre d'argent, etc., pour commettre l'adultère. Et après avoir fait cet acte-là, la femme, elle était toute effrayée et apeurée. Alors, il lui a demandé, mais pourtant je t'ai payé, je t'ai donné de l'argent. Elle dit, oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais obligée et c'est la première fois de ma vie, etc. Et là, il lui a redonné cet argent-là. Et lui aussi, il a fait cette intention. Il a dit, Inch'Allah, or kif bi koi guna nahi kalinga. La femme a dit, Inch'Allah, jamais plus je referai ça. Et lui, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais de péché. Et il se trouve que dans la nuit même, il a quitté cette terre, et le matin, subah uske darwaza par ghaib sayyid tahrir liki hui digay. Parfois dans les peuples précédents c'était comme ça, lorsqu'on faisait des péchés, parfois il se peut que Allah Ta'ala il faisait voir sur la porte de ces personnes là et donc lorsqu'il a été pardonné, Allah Ta'ala il a mis ghafarallahu lil kifl, Allah Ta'ala il a pardonné à ce kifl. Mais Mufti Shafi sahib rahmatullah alayhi et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit que dhul kifl et ce personnage al kifl, ce sont donc deux personnes différentes. Donc voilà un peu par rapport à ça. Ensuite, dans cette troisième partie de Tazkiya, Allah tabarak wa ta'ala nous parle toujours du conte. Et oui, un verset également qui est important, c'est quoi? وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Allah nous dit, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Et le test du mal, c'est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala, il verra si dans cette situation, on va faire preuve de patience par rapport à cela. Et par le bien également, Allah Ta'ala, il verra, est-ce qu'on va remercier, est-ce qu'on pourra remercier Allah Ta'ala. Et là où c'est plus surprenant encore, c'est quoi? C'est que, bien évidemment, on préfère, il faut toujours demander la afiya. Mais il est dit en ce sens que Hazrat Omar, radiallahu ta'ala anhu, lui, il a dit qu'Allah nous a testés, Allah, il nous a éprouvé par le mal, par les difficultés, et alhamdulillah, nous avons pu faire preuve de sabr. Boulina bidharra fa sabarna wa boulina bisarra fa lam nasbir. Mais lorsqu'Allah il nous a donné, il nous a testé par les bonnes conditions, par la richesse, par l'aisance, par la tranquillité, par la santé, alors là nous n'avons pas pu remplir ce test là. C'est pour ça que les savants ils disent en ce sens, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, à la page 188 volume 6, il dit que de faire preuve de choukr dans la facilité, c'est beaucoup plus difficile que de faire preuve de sabre dans la difficulté. Parce qu'en général, lorsqu'on est dans l'aisance, on oublie beaucoup plus facilement. Dans un autre verset du Coran Sharif, Allah tabarak wa ta'ala dit وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. Lorsqu'on donne à l'être humain beaucoup de bienfaits, alors il nous oublie, il ne vient plus nous voir, il ne vient plus nous rendre visite, etc. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. Et lorsqu'un mal l'atteint, alors là vous allez le voir faire de longs du'a, fadou du'a in arid. Et c'est pour ça que Mufti Shafi Sahib Rahmatullah dit que parfois c'est plus facile. Bien évidemment, on demande toujours la afia, mais Allah tabarak wa ta'ala efface également qu'on ne se laisse pas tromper par la tolérance et les grandes qualités de pardon et de clémence d'Allah tabarak wa ta'ala. Et surtout, on n'oublie pas que tout peut arriver et qu'un jour on devra partir. Donc il faut faire attention également, lorsqu'on avait également fait, alhamdulillah, le bayan sur l'amour de ce monde, on avait dit que les bonnes conditions de ce monde ne sont pas signes d'acceptation auprès d'Allah. Mais bien au contraire, parfois, plus on désobéit à Allah, plus Allah il nous ouvre les portes. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Lorsque ces personnes, ils ont oublié ceux dont on les avait rappelés, alors on a ouvert toutes les portes. Et Mufti Taqi Osmani, dame barakatuhum, il a expliqué dans son Istahi Khutubat que si on voit qu'on désobéit à Allah et que malgré tout on avance dans notre dunya, c'est-à-dire on trouve un travail, on augmente dans notre poste nos finances, notre travail, nos mariages, etc., etc. On désobéit à Allah et malgré tout les portes s'ouvrent pour nous. Alors, إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Ça, c'est ce qu'on appelle istidraj, c'est-à-dire Allah Ta'ala, il met en place progressivement les moyens pour punir cette personne-là. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, Inch'Allah, il nous protège et il nous fasse toujours garder à l'esprit qu'un musulman, aucune situation n'est mauvaise pour lui. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Si nous sommes dans de bonnes conditions, alors notre test et notre devoir, c'est de remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et si nous sommes atteints par une quelconque maladie, malheur, problème, etc., Allah Ta'ala, il veut également voir ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Comment est-ce que mon serviteur, comment est-ce qu'ils vont réagir? Ensuite, on va terminer juste par un dernier passage qui est celui du tremblement de terre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala mentionne dans le premier ayat de la sourate Al-Hajj. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Les gens, craignez Allah tabarak wa ta'ala, car le tremblement de terre du jour du Qiyama, c'est quelque chose d'immense. Et là, les savants, ils se sont demandé, est-ce que cela apparaîtra avant le Qiyama ou après le Qiyama? On trouve les deux possibilités. Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi également, il dit, et cette scène, Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il l'a décrit, il dit, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. Que ce moment sera tellement terrible que même la femme qui sera en train d'allaiter son enfant, elle délaissera son enfant. Et la femme qui est enceinte, alors immédiatement l'enfant, il va naître immédiatement sous le coup, on va dire, de la terreur. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullah l'explique que si cela se produira avant l'arrivée du Qiyama, alors ceux qui étaient dans cet état-là, cela se produira. Et ceux qui sont morts dans cet état, ils seront ressuscités dans ce même état. Et c'est donc après le jour du Qiyama que cela arrivera. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Inch'Allah, il nous protège par rapport à cela. Pour terminer, Inch'Allah, il y a un ayat également de fazila, on va dire de vertu. D'ailleurs, quelqu'un m'avait rappelé ça également pour le 15e sipara. C'est quoi? C'est un ayat, celui de Hadith Yunus alayhi salatu wassalam, qui, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, il a récité La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a pas d'autre Dieu à part toi, Allah, pureté à toi, et sans doute j'ai été parmi ceux qui ont commis le mal. Et Allah Ta'ala dit Wa kadhalika nunjil mu'minin. De la même manière, nous sauverons les musulmans. Ce qui veut dire que jusqu'au jour du Qiyama, toutes les personnes qui vont pratiquer là-dessus, et Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alim dit, il faut qu'on inclue ce doua, cette partie-là dans nos doua. C'est-à-dire, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Autant qu'on peut réciter, Inch'Allah, cela sera un moyen, Inch'Allah, pour nous d'éviter les difficultés. De la même manière, un autre verset qu'un frère m'avait rappelé dans la dernière partie de sourate Bani Israël, wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu shariikan fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Il est dit que ça, ce qu'on appelle ayatul 'izz, c'est-à-dire le ayat de la puissance, de l'honneur, comme Allah Ta'ala dit tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Et ce verset également, il y a plusieurs récits qui ont été mentionnés, même si Hafez Ibn Kathir rahimahullah Ta'ala, il a fait kalam dessus, c'est-à-dire sur le sanad, etc. Mais inshallah, si on va lier ça, ce sera un moyen de protection pour nous. Et il est dit également que parmi certaines tribus, lorsque les enfants ils venaient au monde, alors dès qu'ils avaient la possibilité d'apprendre, de mémoriser, on les faisait mémoriser ce verset-là. Et un autre verset également qui est bon pour la récitation du Coran, dans le Coran Sharif, que Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi a mentionné pour la protection contre toutes les mauvaises choses, pour obtenir le bien, etc., c'est le doua que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il a quitté Makkah Mukarrama. Il était poursuivi par les non-musulmans et Allah Ta'ala a fait qu'il a pu s'échapper. Ils n'ont pas pu attraper le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que lorsqu'il est arrivé à Madina Munawara, il a trouvé un endroit où il y avait la paix, il y avait la tranquillité, il y avait des gens pour l'aider. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullah dit, de la même manière, nous aussi, Inch'Allah, si dans nos doigts nous incluons ce verset-là que je vais mentionner, Inch'Allah, alors ce sera moyen pour nous pour obtenir et atteindre nos objectifs. Et le verset, c'est le suivant: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Et oh Allah, donne-moi de ta part une aide qui me fasse avancer dans mes objectifs. Allah Ta'ala nous donne la compréhension, Inch'Allah, de ces quelques paroles et nous pardonne nos péchés. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ رَبَّنَا.